Bonjour à chacun. Je me réjouis de me tenir là devant vous, même si c'est le premier dimanche où j'interviens officiellement. C'est la troisième fois que j'ai l'occasion de prêcher parmi vous, puisque j'étais là au mois de janvier, je suis revenu au mois de juin, mais c'est effectivement le premier dimanche où je commence officiellement mon ministère au milieu de vous. Et c'est un réel privilège, une réelle joie pour moi de pouvoir débuter ce ministère au milieu de cette belle communauté. J'ai envie de dire que vous m'êtes déjà précieux, mais que j'ai envie d'apprendre à vous connaître. J'ai envie d'apprendre à vous aimer aussi. J'ai pu prier pour les quelques noms que j'ai vus apparaître dans la feuille de culte au fil des derniers mois. Je pourrais prier pour vous grâce à l'annuaire qui vous recense, en tout cas pour ceux qui y figurent, mais j'aimerais vous connaître. Parce que la prière sera alimentée par la relation que j'aurais pu nourrir avec vous et que cela va être précieux et important. En même temps, il me faudra un peu de temps avant de vous connaître. Même si nous ne sommes pas tous ce matin, je sais que la communauté rassemble plus de 200 personnes, et on dit généralement qu'un homme peut connaître à peu près bien jusqu'à 150 personnes, 200 s'il est doué relationnellement, et vous êtes au-delà de ce nombre, et j'espère même que nous puissions être encore davantage à l'avenir, parce que le Seigneur amènera à lui des gens dans le quartier, des gens dans votre entourage, des gens se tourneront vers lui. Alors, si je vous redemande votre nom et que je le redemande encore, je vous prie de faire preuve d'indulgence à mon égard. Ce n'est pas faute de bonne volonté. Ma mémoire n'est pas excellente en termes de nom, mais je vais effectivement m'appliquer à vous connaître tous parce que j'y tiens. Parce que vous êtes précieux aussi aux yeux de Dieu, et du coup, précieux aussi à mes yeux. J'ai constaté que c'est souvent en établissant un lien plus personnel qu'on apprend à connaître les gens. Yves Adélaïde était là pour des problèmes de plomberie cette semaine dans l'appartement. Eh bien, cette fois, je le connais, je sais que c'est Yves. Alors, il en ira de même avec chacun d'entre vous quand nous aurons eu ce contact un peu plus personnel. Je saurai aussi mieux qui vous êtes. Et nous pourrons ainsi établir un bon contact. C'est vraiment un privilège pour moi d'avoir été appelé à servir Dieu dans cette église, dans cette communauté. Je crois l'avoir dit dans une de mes prédications précédentes, je ne suis pas un homme parfait, vous vous en rendrez très vite compte, mais je cherche à servir mon Dieu aussi fidèlement que possible. Le servir dans l'appel qu'il m'a adressé. Je souhaite personnellement que nous soyons une communauté qui aime Jésus. Qu'il aime tellement que toutes les personnes qui viendront nous rendre visite dans cette communauté et qui ne connaissent pas encore Jésus ressentent cet amour. Que ces personnes puissent tomber à genoux et dire « Pour sûr, Dieu est présent au milieu de vous. » Cet amour, en tout cas, je l'ai senti quand je suis venu la première fois. Et je continue à le sentir. Nous sommes arrivés avec mon épouse il y a une dizaine de jours. Et nous avons vu un magnifique panneau d'accueil dans notre appartement qui disait « Bienvenue ». Plus de 32 personnes ont œuvré à la rénovation de cet appartement pour que vous y soyez bien. Et nous nous sommes tout de suite sentis bien dans cet appartement. J'aimerais remercier sincèrement, chaudement, chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies pour que nous puissions rapidement nous sentir accueillis et nous sentir bien dans cet appartement. Cet accueil tout concret, tout matériel, tout pratique nous a vraiment profondément réjouis et je crois qu'il témoigne aussi profondément d'un attachement à Dieu et de l'envie de lui faire plaisir. Plusieurs d'entre vous n'avez pas pu aider pratiquement, mais vous avez été là dans la prière. Et je vous ai dit la semaine dernière que que Dieu a été fidèle jusque dans les plus petites choses. Je vous ai dit aussi que je vous en dirai un peu plus cette semaine. Alors, une semaine avant notre déménagement, les prévisions météorologiques annonçaient de la pluie aussi bien à Paris qu'à Lausanne. Pour le jour de notre départ, pour le jour de notre arrivée ici. Et comme notre déménagement s'étalait sur 3 jours, nous avions un peu crainte que des cartons mouillés, entassés dans un camion pendant 48 heures fermé, simplement n'éclatent à l'arrivée au moment du déchargement et que nous ayons nos affaires répandues partout à terre. Alors nous avons commencé à prier. Nous avons demandé au Seigneur d'écarter la pluie, de permettre que nous puissions déménager à sec. Et effectivement, les prévisions pour Paris se sont améliorées et on nous annonçait un déménagement à sec. Par contre, les nuages devenaient de plus en plus intenses du côté de Lausanne, à tel point que le jour d'avant, je me suis dit « comment allons-nous échapper à la pluie ?» Et plus on avançait, plus ça devenait inquiétant. Alors j'ai prié, j'ai encore prié pour que Dieu chasse ces nuages et que nous puissions déménager à sec. Les déménageurs venaient d'Alsace. Ils étaient censés arriver à 8h30 le lundi matin. À 7h30, il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit, mince, mais le Seigneur est plus grand que tout cela, il sait. Peut-être va-t-il encore faire arrêter la pluie avant qu'il n'arrive. À 8h30, la pluie s'est arrêtée, mais les déménageurs n'étaient pas là. À 9h, ils n'étaient toujours pas là. À 9h30, on les attendait toujours. On a commencé à s'inquiéter, on a téléphoné. On nous a dit qu'ils étaient bloqués à la frontière et qu'ils n'arriveraient pas avant la fin de la matinée pour les premiers, mais le camion n'arriverait qu'en début d'après-midi pour le chargement. Or, les prévisions annonçaient du temps plus radieux l'après-midi. Et le matin, à 9h30, il a commencé à tomber de la pluie, comme il n'était pas encore tombé de pluie avant. Une pluie abondante, juste au moment où les déménageurs auraient dû transporter tous nos cartons. Et finalement, quand le camion est arrivé en début d'après-midi, nous avons pu transporter tous les cartons à sec. Quand tout était terminé, que nous avons fermé à double tour la clé de l'appartement le soir, la pluie s'est remise à tomber. Est-ce que Dieu n'est pas formidable? Dieu intervient dans les plus petites choses de l'existence. Il n'a pas répondu comme je m'y attendais. Il n'a pas chassé les nuages. Il a fait mieux encore. Il a chamboulé tous nos plans. Nous n'avons pas pu faire les choses comme nous voulions. Nous sommes arrivés plus tôt que prévu à Paris. Mais grâce à cela, tout s'est bien passé et mieux passé que nous l'espérions. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. Ce matin, je ne m'attendais pas à être au piano. Je l'ai su une minute avant que le culte commence. Mais Dieu est là et pourvoit. Il pourvoit en toutes choses. Pas toujours comme nous nous y attendons, mais toujours comme lui le veut et toujours pour notre bien. Toujours en vue d'un meilleur. Pas toujours le meilleur selon nos yeux terrestres, mais toujours le meilleur avec les yeux de la foi. Toujours le meilleur. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Dieu est puissant. Il est fidèle. Il est bon. Même dans les difficultés, ce qu'il nous donne est le meilleur. Alors je vous invite à lire 2 versets ce matin que j'aimerais méditer avec vous. Au chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, je lis dans la Bible du Semeur. Hébreux, chapitre 12, les 2 premiers versets. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jusque-là, la lecture. Oui, parfois, les difficultés pourraient nous décourager. Elles pourraient même nous arrêter dans notre vie chrétienne. Certains chrétiens se refroidissent quand leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils espéraient. Ils espéraient un Dieu qui leur donne une vie facile, mais leur vie de tous les jours est faite de souffrances, d'errances diverses. Et alors ils commencent à douter. Ils pensaient que Dieu leur offrirait déjà la vie éternelle ici-bas, qu'ils vivraient dans un monde sans problème, sans maladie, sans souffrance, sans injustice. Mais ils rencontrent tellement d'obstacles sur leur route qu'ils commencent à douter du Dieu en quel ils ont cru. Le problème ne vient pas de Dieu. Il vient de la perception qu'ils ont de Dieu. Et au lieu d'approfondir leur communion intime avec Dieu, de découvrir que Dieu lui-même a souffert l'injustice, les trahisons, la souffrance en Jésus-Christ, eh bien, ils s'éloignent de Dieu. Jésus a connu les épreuves que nous devons traverser. Mais il est resté fidèle à son Père céleste. Il est resté attaché à Dieu. Et dans ce sens-là, il est pour nous le parfait modèle de foi. Mais plus qu'un modèle, il est aussi celui qui peut, celui qui veut nous donner la foi, cette foi qui va tenir dans l'épreuve. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il veut nous garder fermement jusqu'au bout de notre course ici-bas. Mais pour cela, nous sommes invités à une chose, à lever nos yeux, à garder nos yeux fixés sur Jésus. Nous l'avons lu. Le verset 2 nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Des deux versets que j'ai lus, j'aimerais rapidement dégager trois points. Tout d'abord, souligner que la vie chrétienne ressemble à un marathon. Deuxièmement, que pour terminer ce marathon, il faut que nous nous débarrassions de tout ce qui est superflu, et notamment du péché, pour que nous puissions courir léger. Et troisièmement, pour remporter le prix, la médaille, eh bien, il nous faut toujours regarder au but et ne pas nous laisser distraire. Donc, ce premier point, la vie chrétienne est semblable à une course. L'auteur de l'Épître aux Hébreux imagine des coureurs dans un stade qui est rempli d'une foule immense qui encourage ceux qui font la course. Pour lui, la vie chrétienne ressemble à une épreuve, ressemble à une épreuve sportive, non pas un sprint, un 100 mètres, mais plutôt à un marathon, une course d'endurance. Une course où l'important n'est pas seulement de bien commencer, mais aussi de bien terminer. Or, vous le savez peut-être, celui qui s'engage dans un marathon en étant insuffisamment préparé, en n'ayant pas pensé à la longueur de la course, en ne gérant pas suffisamment bien ses efforts, eh bien, ne va pas arriver au bout de la course. Et donc, on peut apprendre de ceux qui ont déjà couru ce marathon. On peut apprendre de la manière dont ils s'y sont pris pour parvenir au bout de la course et les imiter dans leur foi. Nous ne sommes pas les premiers à courir la course. Beaucoup nous ont précédés. Ils sont pour nous vraiment des exemples admirables d'hommes, de femmes de foi, des modèles. Des modèles qui nous montrent que Dieu est intervenu dans leur vie, que dans les moments décisifs, Dieu est intervenu avec puissance, il les a délivrés, il les a secourus, il leur a permis de poursuivre la course. Il leur a permis d'arriver au bout, sans se décourager. Le chapitre 11 nous donne quelques exemples. Pensez à Abraham. À un moment donné de sa vie, Dieu l'appelle à tout quitter. Abraham quitte tout ce qu'il possède, toutes ses sécurités, sans savoir où il va aller. Mais il accepte d'obéir à l'appel de Dieu. Pensez à Sarah, sa femme. Elle était stérile, trop âgée pour avoir des enfants. Et finalement, Dieu lui fait la promesse d'être mère, et des années plus tard, elle devient mère. Mais elle a dû apprendre à faire confiance à Dieu, malgré les années qui passaient. Pensons à Moïse, qui a quitté le confort du palais égyptien. Il avait été adopté. Il jouissait d'une vie de privilège, d'une vie royale, ou de prince en tout cas. Il quitte tout pour aller paître des troupeaux et suivre ensuite l'appel de Dieu. Pensez au peuple d'Israël. Il a reçu une promesse, celle d'être délivré de l'esclavage et de l'oppression. Il a cru à cette promesse. Et cette promesse s'est réalisée magnifiquement. Dieu a fait traverser tout le peuple à sec au travers de la mer Rouge. Relisez le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux et vous verrez des modèles de foi, des gens qui ont tenu bon, qui ont persévéré. Et dans ce chapitre, à partir du verset 33, nous lisons qu'en faisant confiance à Dieu, grâce à leur foi, certains ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. On pourrait se dire, waouh, ces gens ont connu des victoires extraordinaires avec le Seigneur. Mais où ont-ils remporté ces victoires ? Dans des combats, dans des luttes, dans des épreuves. Ça ne leur a pas été enlevé. Simplement faisant confiance à Dieu dans ces moments décisifs, Dieu est intervenu avec force et puissance. Il les a délivrés. D'autres ont eu la même foi, ont fait preuve de la même endurance. Et on pourrait croire que Dieu n'est pas intervenu de la même manière. Pourtant, ils n'ont pas eu moins de foi. Ils n'ont pas manqué de foi. Mais Dieu ne les a pas délivrés ici-bas. Nous lisons à partir du verset 35b. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Ils ont refusé d'être délivrés, c'est-à-dire ils ont refusé d'abjurer leur foi. Ils n'ont pas voulu trahir le Seigneur. Ils ont suivi Jésus dans un chemin de souffrance qui allait être le chemin du martyr. Pourquoi l'ont-ils fait ? parce qu'il voulait obtenir quelque chose de meilleur encore que la vie ici-bas. Il voulait obtenir la résurrection, la vie éternelle. Et le meilleur pour eux n'était pas d'avoir une vie sans souci. Ils ont pu voir au-delà. Ils ont vu la joie qui les attendait dans l'éternité. Ils ont été fidèles au Seigneur, prêts à le suivre jusque dans la mort, pour avoir la joie d'être réunis à Christ. Mes frères et mes sœurs, le but de la vie chrétienne n'est pas de mener une petite vie tranquille ici-bas. Le but, c'est Jésus, c'est de lui rester fidèle, c'est de lui obéir en toutes choses. Et Dieu, une fois, va délivrer miraculeusement de la tempête, et une autre fois, il va délivrer aussi en permettant d'être soustrait aux difficultés de ce monde pour le rejoindre dans l'au-delà. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu intervient. Il n'est pas moins bon dans un cas que dans l'autre. Dieu reste bon, même dans la mort, parce qu'une autre espérance est là, l'espérance d'être avec lui. Quand quelqu'un fait face aux difficultés, qu'il ne semble pas en être délivré tout de suite, certains pensent parfois qu'il manque de foi. On entend parfois même des reproches à l'égard de ces chrétiens en disant « si tu croyais, si tu avais la foi ». Aucun reproche n'est fait à ceux qui ont été torturés, sciant d'eux, mis à mort par l'épée, ou qui ont dû mener une vie errante. Aucun reproche n'est fait à ceux qui ont été persécutés ou maltraités. Il est dit « Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi ». Leur fin n'a pas été moins belle, elle a été différente. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour eux. Et il les a gardés fidèles jusqu'au bout de leur course. Et c'est cela qui est l'essentiel, rester fidèle. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que si la vie chrétienne ressemble à une course, à un marathon, eh bien il faut se débarrasser de tout le superflu pour réussir à terminer le marathon. Notre fils Clément, qui a 11 ans, aime bien l'athlétisme et il s'est lancé récemment dans les 20 km de Lausanne. Alors, à son âge, on ne fait pas encore 20 km, on en fait 4. Et comme il n'avait pas grande expérience, je lui ai prodigué quelques conseils pour qu'il ne s'élance pas dans la course comme s'il allait faire un 100 mètres. Je lui ai dit aussi qu'il était important d'avoir un effort régulier sur toute la durée de la course pour tenir. Et à un moment donné, quand ça fait mal, il faut se souvenir qu'il y a un prix à remporter, qu'il y a une victoire à gagner. Et bien, pour arriver au bout de notre course, l'auteur de la lettre aux Hébreux se permet aussi de nous faire des recommandations. Il nous dit que le coureur doit se débarrasser de tout ce qui pourrait gêner sa course. Il nous dit qu'il doit faire preuve d'endurance. Il y a des choses dans notre vie chrétienne qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui représentent parfois des poids tels qu'ils ne nous rendent plus disponibles pour servir le Seigneur. Cela peut être un refus de pardonner. Cela peut être l'amertume qui a gagné le cœur et qui gangrène finalement notre vie spirituelle. Cela peut être la recherche de jouissances passagères qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de sa parole. Cela peut être des soucis qui nous accable tellement qu'il nous empêche de faire les pas de foi nécessaires qui nous sont proposés par le Seigneur. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle de fardeau qui ralentissent la course. Il identifie en particulier un fardeau qu'il nomme le péché. Il ne dit pas les péchés de manière générale, il dit le péché. Ce n'est pas une liste particulière, mais plus fondamentalement, le péché, c'est le refus de Dieu, le refus d'obéir à sa parole. Je me souviens d'un responsable d'église que j'ai connu il y a bien des années. Il faisait de la relation d'aide. Il n'a pas été très prudent dans ses relations. Il a accompagné une femme. Et un jour, il était tellement proche de cette femme qu'il a quitté sa femme, ses enfants, pour se lancer dans une aventure avec la femme qu'il était censé aider. Quand je l'ai rencontré, j'essayais de dialoguer, de discuter avec lui. Mais il justifiait son choix en tordant, en déformant la parole. Je suis certain qu'au fond de lui-même, il savait bien qu'il se mettait en contradiction avec la parole de Dieu. Mais ses désirs l'aveuglaient complètement. Et on peut se demander, mais comment quelqu'un qui a cherché à servir Dieu peut se laisser tromper pareillement? Comment il tordre à tel point la parole pour essayer de la tourner à son avantage? C'est le diable qui est le père du mensonge. C'est lui qui cherche à nous aveugler. Il cherche à tromper les croyants. Et nous devons être vigilants. Le péché vient du diable. Il vient aussi des désirs de la chair. Il vient de la convoitise ou des convoitises de ce monde. Soyons vigilants, mes frères et mes sœurs. Et si nous sommes engagés sur un mauvais chemin, renonçons à cela. Malheureusement, ce frère a dû, bien sûr, cesser son ministère parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu. Il a refusé le chemin de la repentance, le chemin du pardon, le chemin du salut. Courir la vie chrétienne implique de se débarrasser de tout fardeau inutile, du péché qui nous enlace, ce péché qui nous tient serré, comme si nous étions enchaînés, fermés par des cordes, que nous n'avions plus de liberté de mouvement. Christ nous invite à délaisser tout cela, afin de courir léger et de ne pas traîner dans notre course quelque chose qui pourrait empêcher que nous arrivions au but. Persévérons dans la course. Le troisième et dernier point, gardons les yeux fixés sur Jésus. Une vie chrétienne qui est une vie réussie, c'est une vie qui est endurante. Et pour cela, nous ne sommes pas invités à regarder aux choses matérielles, mais nous sommes invités à regarder à Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Regardons au but, regardons le prix qu'il y a à remporter. J'aimerais évoquer deux choses. D'abord, avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est regarder un modèle de foi. Quand vous regardez Jésus, que vous lisez les Évangiles ou le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que Jésus a montré que l'on peut rester attaché à Dieu dans les pires épreuves, dans l'humiliation, dans les moqueries, dans l'injustice. Jésus nous a montré qu'on peut rester obéissant au Père des pires moments de l'existence. Il nous a montré qu'on peut continuer de croire que Dieu va intervenir et que Dieu intervient. Pourquoi Jésus a-t-il accepté tout cela? Il nous a dit parce qu'il entrevoyait la joie qui lui était réservé. n'ont pas la joie de mourir. Mais il était joyeux de faire la volonté de son Père. Et si nous suivons Jésus sur ce chemin d'humiliation, de renoncement, nous pourrons aussi être joyeux, joyeux de nous savoir dans la volonté du Père. Le deuxième élément, c'est que regarder à Jésus, c'est aussi prendre le temps de s'arrêter un moment, chaque jour, avec lui. Ce n'est pas évident. Dans une vie qui est souvent faite de plein d'aléas, de tensions, de stress, de différentes choses qui viennent nous perturber dans notre quotidien, mais je crois fondamental de regarder tous les jours à Jésus et d'avoir un temps privilégié de communion avec lui, d'écouter sa parole, de lui parler. Regardez les feuilles des arbres. Elles sont reliées aux branches, aux troncs, grâce à la tige de laquelle elles reçoivent la sève qui vient alimenter la vie. Quand une feuille tombe, c'est que la sève ne parvient plus jusqu'à la feuille. Et du coup, quand il n'y a plus la vie, la feuille se dessèche, elle tombe. Dans la vie chrétienne, il en va de même. Si nous sommes unis à Christ, nous sommes comme la feuille qui est connectée à l'arbre grâce à la tige. Elle reçoit. Nous recevons la sève de Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Mais quand nous ne sommes plus reliés à Christ, quand nous ne sommes plus unis à lui, nous ressemblons à cette feuille morte qui tombe et qu'on va piétiner à terre. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. C'est comme cela que nous allons terminer notre parcours. C'est comme ça que nous recevrons la force d'aller jusqu'au bout. C'est lui qui nous nourrit. Alors ce matin, ma prière pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est qu'individuellement, communautairement, nous levions nos yeux vers lui. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il a initié notre foi. C'est lui qui mènera aussi notre vie jusqu'à son complet achèvement. Alors faisons-lui confiance. Amen.